tirer des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Laurence Alanic,
Baptiste Antoine,
Maïs Acostache.
Bonjour, bonsoir. Il était une fois un ingénieur diplômé de Central Paris qui se hissa au sommet des hit-parades avec des élucubrations et des problèmes. Il était à la fois un chanteur aux cheveux longs, sans doute un peu bohème, mais pas bobo pour un sou, qui préféra courir les océans en chemise à fleurs plutôt que les cocktails branchés de la Jet Set. Il était une fois une série de documentaires justement baptisée « Il était une fois », mais « Il » I-L-E-S, qui nous a emmenés tout autour de la planète découvrir des endroits de rêve et leurs habitants. Vous l'avez compris, cette histoire, c'est celle d'Antoine qui fête cette année un anniversaire, ses 40 ans de bourlingage, 40 escales, 40 ans de navigation. D'Antoine est paru chez Gallimard et vous m'en direz des nouvelles. Oh yeah. Bonjour Antoine.
Bonjour, comment ça va?
Très bien,
ouverture sur Royer.
Ah, c'est pas mal, hein.
Voilà. Généralement, on me dit, il ne s'est toujours pas fait couper les cheveux.
Non, absolument. Oui, dans 20 ans, si vous voulez, peut-être.
Dans 20 ans, c'est voilà, je réponds, dans 20 ans.
Bon.
Je fais dans 20 ans.
Bon, vous êtes d'origine corse.
Oui, mon père était corse des montagnes, là-haut du centre de la Corse.
Ouais.
Et c'était un grand voyageur, déjà.
Ouais. En plus, vous êtes né à Madagascar,
voilà,
à Tamatave. Ben,
mon père était un fonctionnaire de la République française, au bout du monde.
Donc, l'île, l'insulaire Antoine, finalement, c'était ça dès sa naissance.
Voilà, ben moi je suis né à Madagascar, j'ai passé 5 ou 6 ans à Saint-Pierre-et-Miquelon, au Cameroun, avant d'arriver à l'adolescence, quoi. Donc je savais que je serais voyageur, quoi, c'était évident.
Et donc quand vous vous êtes retrouvé en région Rhône-Alpes, entre Grenoble et la Savoie, vous aviez déjà envie de quitter ces montagnes et de retourner vers la mer?
Déjà je l'ai quitté par la voie des ondes, parce que j'écoutais des radios lointaines, genre les radios anglaises, les premières radios libres qui passaient des succès du rock de l'époque et tout ça. Et sitôt que j'avais un moment de vacances, je partais en Angleterre, aux États-Unis, un peu partout, quoi. C'était déjà marqué, quoi.
Ouais. Alors on l'a dit, hein, vous êtes diplômé de Central en 66, et la même année vous faites un tube incroyable,
hein,
Les Élucubrations.
Ben ça, 1966, c'était fin 65, j'avais déjà beaucoup voyagé j'avais parcouru toute l'Europe en autostop pendant l'été 65, et j'avais découvert qu'on pouvait vivre en grattant la guitare.
Oui.
On pouvait jouer des chansons, et puis ça apportait un peu de plaisir, un petit moment de plaisir aux gens.
Alors justement, vous terminez vos études, vous avez la possibilité de vous installer tranquillement dans le showbiz et la chanson française, et finalement vous décidez de tout larguer, de larguer les amarres en même temps.
Ben ça c'était bien aussi là, c'était bien aussi le voyage dans la chanson. Il y avait beaucoup de faux voyages. Je suis allé en Italie souvent, en Yougoslavie, au Québec, au Brésil, etc. Mais on ne voyait que le studio d'enregistrement, et puis l'aéroport, et puis le grand hôtel de luxe, quoi. Voilà, c'était un peu limité, quoi.
Mais pourquoi ça vous suffisait pas?
Non, ça suffisait pas. Bon, j'ai des rencontres sympas. Il y avait des musiciens au Brésil, c'était formidable. Je me rappelle avoir fait la connaissance de Caetano Veloso, de Gilberto Gil, qui était en train de naître, là, à l'époque. Mais j'avais pas le temps, quoi. Tandis que quand le bateau est arrivé, que je ne connaissais pas du tout le bateau de plaisance, j'ai tout de suite compris que c'était vraiment un lien idéal pour rejoindre des escales. Et d'où ce livre un petit peu, qui est un choix parmi les 40 plus belles, pas les 40 plus belles parce que c'est difficile, mais parmi les plus belles, 40 parmi les plus belles. Et pour moi, j'adore la traversée. J'adore les faire en solitaire, pas en particulier, mais surtout pas en course. Mais j'adore encore plus les escales, bien sûr. Ouais,
mais quel était le déclic, justement, de tous ces voyages, Antoine? Un beau matin, vous vous êtes levé, alors il faut que je parte.
L'histoire de partir en bateau, le déclic du bateau, ça a été ben, magique. J'y connaissais rien, j'étais pas du tout, j'avais pas l'habitude de, je suis pas né en Bretagne à faire des ronds dans l'eau devant la Trinité-sur-Mer, c'était pas mon genre. Mais par contre, j'avais loué une maison, il y avait un petit dériveur qui était dans le garage de la maison, et un copain, un après-midi, on n'avait rien d'autre à faire, me dit, on va faire un essai, on va aller
à la Ça c'était en 69, c'est
ouais,
ça?
Ouais, je me dis, moi ça m'intéresse pas du tout, ça me plaît pas du tout. Si, il a insisté, et puis en quelques heures, ma vie a changé, parce que j'ai été convaincu.
Mais qu'est-ce qui vous a plus d'emblée?
Eh ben, pas du tout pas seulement la sensation de sentir le vent dans les cheveux, la traversée, d'avancer avec le vent ou même contre le vent. C'est quand même une grande escroquerie d'avancer en voilier, on arrive à avancer contre le vent.
C'est pas
confortable, mais c'est vrai. Mais surtout d'aller quelque part. Je me rappelle que toute première, quand j'ai le bateau là, il pouvait pas flotter plus de 100 mètres quoi. Donc je suis allé louer aussitôt un petit dériveur plus moderne en plastique. C'était à Saint-Raphaël. Et ben aussitôt je suis parti et je suis allé jusqu'à Saint-Tropez quoi. Non pas attiré par Saint-Tropez pour y aller. J'ai fait le tour d'une bouée à Saint-Tropez. Je suis revenu parce que déjà même un petit bateau comme ça pour moi c'était pour aller quelque part.
Quoi. Alors vous racontez hein, dans ce livre 40 escales, 40 ans de navigation publié chez Gallimard que vous cherchiez les clés du grand départ. Hein, c'est l'expression que vous employez et vous rencontrez Gérard Janichon.
Voilà, ben j'ai rencontré.
Qui vous dit, ben attendez, avant de partir loin, commence par partir près, quoi.
Voilà, ben c'est Gérard Janichon était un grand navigateur qui avec son copain Jérôme Poncé avait fait le voyage du Damien. Le Damien, c'est un petit bateau en contreplaqué qu'ils avaient construit. Peut-être pas en contreplaqué. Et ils avaient fait un tour du monde extraordinaire par l'Arctique, l'Antarctique, l'Amazone et tout. Et je les ai rencontrés à leur retour. On est devenus amis et ils m'avaient dit effectivement, si t'es capable de naviguer en Bretagne Sud, tu peux faire le tour du monde. Mmh. Et ben, je me suis dit, je vais aller faire un tour en Bretagne Sud.
Voilà, et donc il y a des photos hein, des ports bretons ce livre, le Guilvinec, Douélan également. Voilà. Qu'est-ce qui vous plaît en Bretagne?
Bon, c'est la... Bon, pas la température de l'eau.
Oui, parce que vous avez testé quand même, hein,
oui,
parce qu'il y a des gens qui
arrivé.
Sont beaucoup courageux que vous. Hein.
Ça m'est arrivé. Ouais. Non, mais la Bretagne, c'est une... Nord ou Sud, là j'ai choisi la Bretagne Sud, mais la Bretagne tout entière, c'est un endroit merveilleux. Et en France, il y a plein d'endroits merveilleux. D'ailleurs, moi, lorsque je reviens en France, je quitte la mer, je m'installe en montagne.
Parce que la légende veut que quand vous êtes à Paris, vous habitez quand même sur une île.
Ah oui, à Paris, j'habite sur une île. Mais sitôt que je peux, je me sauve et je pars dans le Massif Central. Et c'est pas très haut, 600 mètres d'altitude.
Et vous êtes dépaysé dans le Massif Central.
Ben, c'est comme une île parce qu'il y a des forêts, il y a des hectares de forêts autour. Et c'est un pays magnifique. Donc la Bretagne fait partie. Il y a d'autres endroits assez proches. Il y a la Corse, parce que mon père est Corse.
Oui, c'est une île.
C'est une île. Mais il y a aussi d'autres îles moins lointaines qu'on peut atteindre plus facilement, comme une petite île au large de Rome, ou bien Santorin, qui est une île merveilleuse, ou bien...
Qui est aussi dans le livre, d'ailleurs.
Oui, des destinations. Il y a aussi des destinations plus curieuses, quoi, plus étonnantes, comme le Japon, la Nouvelle-Angleterre, ou la Californie.
Oui, alors on va visiter tous ces endroits dans un instant, mais je voudrais que vous nous racontiez un peu votre départ, parce que bon, vous pourrez se dire, on parlait de la route du Rhum juste avant cette émission, que vous alliez partir précisément de l'ouest de la
route
France,
du Rhum que j'ai gagné,
que vous
d'ailleurs.
Avez gagné, ne l'oublions pas.
Parce que j'étais en train de, je faisais la course. Normalement, je suis pas les courses.
Non.
Mais là, comme c'était Loïc Perron qui était en tête et que c'est un très bon copain, je vais l'encourager. Donc j'étais sur Internet en train de veiller à ce qu'il vire de bord au bon moment et tout. Et il m'a écouté.
Voilà. Mais vous n'êtes pas parti des Sables d'Olonne, vous n'êtes pas parti de Saint-Malo, vous n'êtes pas parti de Bretagne, vous êtes parti du sud de la France, vous êtes parti de Marseille.
Oui.
Pourquoi de
Marseille?
Commencer par la Méditerranée?
Parce que mes trois bateaux successifs, en 40 ans j'ai eu trois bateaux, ont tous été construits près de Lyon, à Tarare, un chantier qui existe toujours, qui est légendaire, à Tarare, et mon premier bateau, qui s'appelait Home, a été mis à l'eau sur la Saône. Voilà.
Ouais. Et vous êtes parti avant même que les aménagements intérieurs soient terminés.
Oui, j'avais plus d'argent. J'avais payé.
Vous auriez pu attendre quelques mois.
Non, parce que la saison arrivait, et puis parce qu'il n'était pas question que je reste encore un hiver. Et j'ai vendu ma maison que j'avais à Boulogne, pas trop loin d'ici. Et puis j'ai payé mes impôts, j'ai payé mes dettes, j'ai pu juste m'acheter la coque et les bains.
Quoi. Bon, vous n'êtes pas parti comme ça quand même. Vous êtes fait un petit peu coacher. Marc Pajot.
Oui, ben, c'est-à-dire que
grand navigateur aussi.
Il y a des copains de Marc Pajot et puis l'architecte et puis d'autres navigateurs. Sont venus m'aider un petit peu pour les premiers, la prise en main, quoi.
Ouais,
mais quand même, quand je suis parti, j'étais vraiment néophyte. Hein.
Ouais. Tout seul?
Tout seul. Oui, non, il n'était pas question. Au début, le projet avait été de le faire avec des copains, mais les copains, il y en a un qui se mariait, un autre qui, sa carrière l'empêchait de faire ceci, cela, et puis tout d'un coup, j'ai réalisé que c'était seul qu'il fallait le faire, et je n'ai pas regretté une seconde.
La mère m'a dit en toi, toi qui chantes à la radio, tu devrais dire aux gens d'un peu moins faire les idiots, d'essayer de comprendre qu'il est peut-être encore temps de sauver de la planète le plus important. J'ai regardé les vagues, les nuages et l'océan, j'ai repris ma guitare, j'ai chanté simplement. Touchez pas. Ne dressez pas de frontières sur l'océan, touchez pas à la mer. Ne plantez pas de barbelés dans les lagons, touchez pas à la mer. non, 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 touchez pas à la mer, touchez pas à la mer, épargnez les baleines et les grands oiseaux blancs, touchez pas à la mer, gardez un peu d'eau claire pour vos petits enfants, touchez pas à la mer, non, 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 touchez pas à la mer. Les cinq continents, pour que 5 milliards d'autos y tournent en rond. Même si vous déversez dans les lacs, les rivières, la lie empoisonnée des centrales nucléaires. Touchez pas à la mer, ne dressez pas de front. L'océan, touchez pas à la mer. Ne plantez pas de barbelés dans les lagons. Touchez pas à la mer. Non, 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 touchez pas à la mer. Même si vous transformez les cités en prison, en cible pour les fusées et les bombardiers géants. Même si vous détruisez dans le fer et le sang les fruits de 10 000 années de civilisation. Touchez pas. Touchez pas à la mer, ne plantez pas de barbelés dans les lagons. Touchez pas à la mer, non, 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 touchez pas à la mer.
Touchez pas à la mer, Antoine, en 1987, dans VMDN sur RFI, chanson évidemment éminemment écolo. Qu'est-ce qui vous touche, Antoine, quand vous regardez la mer?
Qu'est-ce qui me touche quand je regarde la mer? Ben c'est difficile à dire.
Vous êtes un contemplatif?
Je suis un contemplatif, mais en même temps, en bateau, on est toujours en train de, même pas sans être en course, on est en train de penser à progresser, quoi. Donc la mer, c'est avant tout pour moi un véhicule, hein, enfin un support pour le véhicule que j'utilise. Mais ce qui n'empêche que je l'admire, je la regarde et je l'admire.
C'est ouais, vous ne dites pas, c'est le plus grand dépotoir du monde.
Non, bah c'est pas le cas d'ailleurs. Il y a certainement des endroits. Je vois Tara qui est revenue avec avoir étudié la Méditerranée. Ça, on sait que la Méditerranée, elle est vraiment, c'est une mer close avec beaucoup de saleté. Mais sur les océans, il reste quand même des espaces de beauté. Et puis on y est très bien. Quoi. Là, je viens de faire 3600 milles en solitaire depuis Tahiti jusqu'en Australie. Et en m'arrêtant de temps en temps, parce que je suis pas en course, en m'arrêtant chez voir des amis dans différentes îles.
Ouais.
Et je trouve que la mer est toujours aussi magnifique.
Ouais,
là, il y avait des baleines qui sautaient partout, il y avait des oiseaux, il y avait des... Non, c'était magnifique.
Oui, et après 40 ans de navigation, vous êtes encore émerveillé, vous êtes encore dans la poésie de l'instant, du lieu?
Oui, parce que les choses sont très irrégulières. Il y a du beau temps, il y a du mauvais temps, il y a des lieux... des lieux qui sont quelconques et puis d'autres qui sont fabuleux. Donc chaque instant est une découverte, chaque instant est renouvelé, quoi.
Alors on le voit à travers les photos de ce livre, hein. C'est un livre très coloré avec tout un nuancier de vert, de bleu, de jaune, d'orangé.
Moi c'est 40 nuances de bleu.
Oui, voilà, c'est ça. Donc, c'est vous qui avez pris les photos?
La plupart des photos ont été faites par ma compagne. Donc moi j'en ai fait une bonne partie, mais il y en a beaucoup par ma compagne depuis qu'on est passé en photo numérique depuis une dizaine d'années. C'est moi je tiens la caméra, puisqu'on a réalisé une trentaine de films actuellement, et je tiens la caméra. Et elle, l'appareil photo.
Alors, les films, ils continuent, effectivement. Il y en a un qui sort, là, d'ailleurs, voilà, sur le Canada.
Un nouveau sur le Canada, c'est un peu différent. C'était une traversée terrestre, là. On est parti depuis l'île de Vancouver jusqu'au Québec. Et puis, on était à faire un petit tour en Nouvelle-Angleterre après.
Oui.
Mais ça fait partie de notre passion, hein, vraiment. Travailler à ces films. Un site internet aussi qui est très... qui est passionnant à entretenir. Là, on avait un
groupe. Donnez l'adresse.
Oui, c'était facile à trouver. Il y a qu'à chercher Antoine, mais c'est antoine.tv, oui. Comme la télévision. Voilà.
D'accord.
Antoine.tv. Et il y a des milliers de pages d'informations sur tous les lieux, qu'on visite, et puis d'autres aussi, d'ailleurs.
Le Canada, Antoine, il est dans le livre. Il y a aussi le Japon, hein. Et ça, c'est étonnant, parce qu'on n'imagine pas tellement Antoine au Canada, ou encore moins au Japon.
Et oui, pourtant, ou en Patagonie.
Ou en Patagonie, oui, absolument.
Un film sur la Patagonie,
ouais.
Ou les parcs américains.
Ouais. San Francisco. Alors, San Francisco, on se dit, attendez, c'est un hommage aux hippies, ça, ben, c'est un petit clin d'œil à Le Forestier.
Non, c'est un clin d'œil, ça en fait partie, c'est un clin d'œil à Kerouac et à Henry Miller, qui s'étaient installés là-bas. Bon, dans ce livre, il y a pas mal d'anecdotes liées à des gens qui ont trouvé un petit peu leur nirvana dans telle ou telle région du monde.
Oui, et quand vous êtes précisément dans un endroit, vous vous plongez dans la littérature, dans la vie artistique de ces lieux.
Pas systématiquement, c'est des choses que j'ai pu lire jadis, Kerouac et Miller. J'ai lu Miller depuis 40 ans, hein, qui parlait de Bixer, et on s'est dit, il faut aller voir, quoi. Et puis c'est vrai que c'est un endroit spectaculaire. Il y a une photo dans le livre qui est une double page de la mer, le Pacifique sauvage qui vient battre Bixer, et on comprend la beauté, on comprend que les hippies, vous en parliez justement, ouais. L'époque beatnik, l'époque hippie, ils s'étaient installés là, quoi.
On vous attendait pas à parler de Saint-Barth, parce que bon, quand même, dans 40 destinations, vous avez retenu Saint-Barth.
Ben oui, parce que Saint-Barth, esthétiquement, c'est magnifique.
Ouais.
Bon, c'est très peuplé, c'est très people, c'est bobo, comme vous disiez au début de l'émission.
Oui, vous êtes passé voir Johnny?
Non, j'ai été conduit, hein. Il nous fallait un véhicule pour aller à tel ou tel endroit par le chauffeur de Johnny, voilà.
Ah, d'accord.
le taxi qui conduit Johnny quand il y va.
D'accord. Donc vous vous déplacez aussi, en moyen de locomotion à moteur.
Quand on est arrivé avec le bateau dans le port de Saint-Barth, on a pris une voiture pour aller filmer des belles choses à tous les coins. Ouais,
et quand vous arrivez à Saint-Barth, par exemple, vous allez au port, comme tout le monde, ou vous essayez de vous trouver un petit mouillage tranquille?
Non, Saint-Barth, c'est particulier, parce que on était dans le cadre d'un tournage. Dans le cadre d'un tournage, on allait au port, parce qu'on allait débarquer, remonter, descendre. Mais par contre, en général, en Polynésie, là où on va jamais dans les ports, quoi. On y va juste le temps de faire les formalités. Les Tonga, par exemple, je suis passé cette année, eh ben, j'ai passé une heure dans le port pour faire des formalités, et puis après je suis parti voir un endroit extraordinaire, une plage de 10 km de long, où il y a une Américaine de 73 ans qui a créé un petit centre de remise en forme et qui vous fait des massages incroyables sur des types de bungalows.
Après l'effort, le réconfort.
Des petits bungalows perdus dans la forêt et pas d'autre habitation à 30 km à la ronde. Quoi.
Oui, parce que donc il y a le plaisir du voyage, il y a le plaisir de l'escale, hein,
oui.
Sur lequel vous revenez dans le livre, et puis il y a le plaisir des rencontres aussi.
Des rencontres, ça en fait partie, oui, bien sûr. Bon, j'ai eu une bénédiction, je raconte dans le livre, c'est ma première escale quand j'ai quitté la France, la toute première escale, enfin, c'était chez Dali.
Oui.
C'était chez Dali où je suis arrêté à Cadaqués. Ou bien une autre fois, c'était une autre anecdote. Je crois pas qu'elle soit dans ce livre-là, mais elle était mignonne quand même. J'étais avec Marc Pajot, avec l'architecte Michel Joubert. On part faire des essais et tout. Puis Brigitte Bardot m'avait téléphoné parce que j'avais connu dans le métier. Enfin, j'avais failli faire une grande émission avec elle. Et puis elle me dit, est-ce que tu pourrais pas venir nous voir parce que j'ai mon copain qui voudrait partir en bateau. Peut-être qu'elle voulait se débarrasser de lui, je sais pas. Et j'ai dit bon, d'accord. Et donc on s'est pointé dans la baie des Canoubiers, là-bas, dans la baie à Saint-Tropez, sur le bateau, et on avait arrivé Brigitte Bardot, les seins nus à l'étrave d'un riva. C'était quand même inoubliable.
Oui. Et vous n'avez pas mis la photo dans l'album,
Non, j'ai pas fait la photo sur là. Non, mais par contre, les marins qui étaient avec moi avaient les yeux écarquillés.
Oui, vous m'étonnez. Donc ça veut dire qu'on est toujours surpris, quoi.
Oui, bah, il y a des mais c'est vrai que les rencontres sont là, mais j'aime aussi beaucoup, beaucoup la solitude absolue, quoi. J'ai la chance d'avoir une compagne qui partage tous ces moments avec moi et qui adore comme moi passer 2-3 mois de suite sans rencontrer personne, quoi.
Oui. Alors on voit. Qu'est-ce que vous vous dites alors?
Oh, on dit un tas de choses. On se dit des choses gentilles en général, que des choses gentilles d'ailleurs.
Oui, bien sûr.
Et puis ensuite, on fait notre travail aussi parce que on a la chance d'avoir un travail qu'on fait sur le bateau en grande partie.
Oui, c'est du boulot de naviguer.
Ah oui. Non, mais faire des photos, les photos, les montages des films, tout ça, et écrire, c'est sur le bateau.
On va faire une très courte pause, Antoine, pour découvrir les dernières nouvelles du monde, et on se retrouve dans une poignée de minutes pour évoquer les Marquises avec notre second invité, l'écrivain Blaise Hoffmann, et vous m'en direz des nouvelles.
Vous m'en direz des nouvelles. Jean-François Cadet.
Toujours avec Antoine pour son livre 40 escales, 40 ans de navigation, paru chez Gallimard.
Il n'y a pas de cerise en Alaska. Et ouchi, 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 ouahoua. Sur la banquise, pas de mimosa. Et ouchi, 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 ouahoua.
Mais qu'est-ce que j'ai mon vieux. Je suis peut-être amoureux. Le 18e arrondissement est un quartier bien troublant. Depuis qu'on me l'a présenté, je ne pense qu'à la retrouver. Je la croise tous les matins quand elle va acheter son pain. Lolita,
eh ouais.
Lolita,
eh ouais.
Elle sera bientôt à moi.
Ouais, dis ça, mon vieux.
Lolita,
eh ouais.
Lolita,
eh ouais.
Elle sera bientôt à moi.
Allez, c'est mon vieux.
Je l'appelle Cannelle. Son corps est bronzé. Je l'appelle Cannelle parce que ses cheveux sont dorés. Je l'appelle Cannelle parce que sa peau est sucrée. Si vous voulez savoir comment je le sais, c'est parce que je l'ai goûté.
Antoine, fais-toi couper les cheveux. Je lui ai dit, ma mère, dans 20 ans si tu veux. Je ne les garde pas pour me faire remarquer, ni parce que je trouve ça beau, mais parce que ça me plaît. Oh yeah.
Voilà, j'aurais pu le refaire une deuxième fois, mais bon, comme vous avez félicité la première,
j'arrive
pas non plus. Voilà. Quelques-uns de vos plus beaux succès, Antoine. Alors, on a reconnu, il n'y a pas de cerise en Alaska, Lolita, je l'appelle Cannelle, et puis donc les élucubrations, évidemment. Alors, on est obligé de dire un mot des élucubrations. D'ailleurs, je crois que l'année prochaine, vous allez publier un livre qui s'intitule 50 ans d'élucubrations.
Vous êtes déjà au courant?
Bah oui, oui, je fais tout. Voilà.
Pourtant, on l'a dit à personne.
Oui, bah on va quand même, oui, ou presque. Bah voilà, maintenant, il y a des millions de gens qui sont au courant, Antoine. Alors
entier.
Expliquez-nous un petit peu quand même de cette chanson-là. Comment est-ce qu'elle est née?
Ben un matin. Ça c'était vraiment un matin au réveil. Je me suis
en vous rasant?
Non, je me rasais pas. J'étais encore jeune. J'avais très peu de poil au menton. j'ai dormi dans un petit studio qu'on me prêtait en échange de quelques chansons dans une boîte de nuit famélique et que je préférais aller à la maison des élèves de l'école centrale. un matin, j'allume la radio et il y avait Yvette Horner qui jouait de l'accordéon et je dis ton accordéon me fatigue Yvette. Je suis retourné vers le mur pour dormir et ça s'est mis à tourner dans ma tête. Ton accordéon me fatigue Yvette si tu jouais. Et tout d'un coup, je me suis relevé et j'ai écrit la chanson.
Voilà. Oui, à l'époque, on a dit Antoine, c'est du hippie sérieux, c'est du hippie revendicatif avec je fais ce qui me plaît, il faut vendre la pilule dans les monoprix. C'est
oui,
ce que vous
sérieux,
vouliez faire?
Non, sérieux, mais j'avais pas d'étiquette, j'ai jamais aimé les étiquettes parce que c'était à la fois sérieux puis aussi farfelu parce que les élucubrations, c'était je réclamais la pilule mais en me marrant. Est-ce que vous savez que j'ai découvert que la même année où j'ai fait les élucubrations, il y a une chanson qui revendiquait la pilule aussi et qui était chantée, qui n'a pas eu le même succès malheureusement, mais qui était chantée par Sœur Sourire.
Ah, celle oui, qui chantait bien sûr, qui faisait Dominique.
Oui, voilà, oui. C'est ça. Et ben, elle a fait une chanson où elle demandait au pape qu'il accepte la pilule. Ça s'appelait la pilule dorée. C'est
d'accord.
Pas mal, hein.
Antoine et Dominique, même combat, en fait. c'est un petit peu ça. Bonjour, Blaise Hoffmann.
Bonjour.
Blaise Hoffmann, voilà. Pardonnez-moi d'écorcher votre nom en plus. Les élucubrations, évidemment, ça vous dit quelque chose, là.
Ah, bien sûr, j'ai dansé des heures là-dessus.
Oui. Pourtant, vous êtes né après la vague hippie, hein, en 78, hein.
C'est bien en ça. En 78, ouais, c'est presque.
En 78, oui, parce que bon, voilà. Disons-le tout de suite, vous êtes suisse, hein, vous vivez à Lausanne et vous publiez aux éditions Zoé un carnet de voyage intitulé Marquise, tout simplement, Marquise au pluriel, hein, comme l'archipel des Marquises, archipel mythique, peut-être d'ailleurs plus encore depuis que Gauguin et Brel y ont fini leur existence. Pourquoi est-ce que vous êtes parti là-bas?
Ben justement à cause d'un chanteur belge qui était une idole quand j'étais ado et c'est un mot qui traînait un peu dans ma tête depuis des années et puis à un moment il fallait y aller.
Il fallait y aller, tout simplement. Donc c'est Jacques Brel qui vous a donné envie D'aller là-bas.
Exactement.
Tout simplement. Vous écoutez une chanson comme ça, et puis vous.
Et je souris à l'ironie de la situation. Ouais. C'est-à-dire que je suis allé là-bas pour, dans l'illusion de retrouver peut-être des choses se rapportant à Brel. Et là, je me retrouve dans les studios parisiens de RFI avec le chanteur Antoine. Voilà. J'apprécie beaucoup.
Et vous savez que Brel disait, si tu vois un Belge intelligent, c'est un Suisse.
Alors, ce livre, Klaus Hoffmann, c'est le récit de votre séjour sur les 6 îles habitées hein, de cet archipel, plus une île déserte. Alors, on va tout de suite évacuer l'île déserte bonus. Parce que c'est pas, oui, c'est le bonus et en même temps, c'est pas le meilleur souvenir. Vous êtes un petit peu planté, quoi, en tentant comme ça le séjour en solitaire.
Non, c'est une île absolument magnifique. C'était la plus belle expérience esthétique du voyage. Après, bien sûr, qu'il y a une certaine vacuité. On se retrouve sur place et l'entreprise avait pas beaucoup de sens. Par contre, c'était magique et on se retrouve là vraiment dans les éléments. C'est-à-dire qu'il y a ce volcan qui pousse dans l'océan. Quelques êtres humains l'ont peuplé pendant un tout petit millénaire. Ils sont repartis et on s'aperçoit que l'humanité, c'est cette petite couche superficielle qu'on trouve parfois sur Terre, ouais. Mais qu'à la base, il y a les éléments.
Enfin, quand même, vous avez eu un petit coup de moral, un petit coup au moral hein, sur cette île qui s'appelle Mutané.
Je cherche aussi. Ouais.
Oui, quand même. Vous avez eu aussi, vous Antoine, le blues de l'île déserte?
Non, l'île déserte ne m'a jamais gêné, mais c'est très différent, mon parcours est très différent du sien, puisque moi je peux partir en bateau, quoi. Là à Motané, il pouvait pas partir. Et c'est donc, je crois que j'ai jamais eu le blues, ni de la traversée, ni de l'escale.
Alors, il y a eu plusieurs portes d'entrée, hein, évidemment, des marquises dans vos deux livres. Fallait bien en choisir une pour commencer. On va évoquer donc Fatou Iva, hein. On a déjà d'ailleurs parlé de Fatou Iva dans cette émission quand on a évoqué Thor Heyerdahl, qui a popularisé la culture tiki. Vous en parlez d'ailleurs, Blaise Hoffmann. De Thor Heyerdahl. Alors, je parle sous votre contrôle, puisque visiblement, vous êtes quand même des spécialistes et des grands connaisseurs. Fatou Iva, c'est l'île la plus australe hein, de l'archipel. C'est l'île la plus excentrée. Et si j'ai choisi cette porte d'entrée-là, bah, c'est à cause de la baie des Vierges. Et là, vous le dites tous les deux, et ça se retrouve vraiment dans les deux livres, c'est l'un des plus beaux mouillages, l'un des plus beaux endroits du monde, tout simplement.
Physiquement, oui, c'est vrai, hein, ça fait aucun doute. Mais Blaise, Blaise a une vision différente de la mienne parce que lui, il la voit de la Terre. Enfin, c'est un truc à deux voies en
fait.
Nos deux récits.
On peut y aller que par voie de mer. Voilà. Mais c'est vrai qu'après, j'étais sur la Terre. Ouais.
Mais tu y es arrivé parce que tu as débarqué à Omoa, qui est au sud, et tu es venu par la Terre jusqu'à la baie des Vierges, si.
Tout à fait. Ouais.
Voilà,
ouais,
c'est
ouais,
ça. Ouais. Alors tandis que nous, on est arrivé de l'autre côté. Quoi. Donc c'est amusant. Parce que j'ai lu son livre avec plaisir. Ouais. Hein. J'ai lu avec grand plaisir son livre parce qu'il y a beaucoup de choses que je connais et d'autres que j'ai découvertes et tout. Et je trouve que c'est vraiment un point de vue très différent, mais qui se complète bien.
Alors, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a eu l'idée de vous réunir, vous voyez. Hein.
Excellente idée.
Voilà, donc, Omoa, justement. Je sais pas, c'est une ville, c'est un village, c'est à combien d'habitants?
Il y a deux villages sur l'île, il y a Omoa, voilà. Anavave.
Oui, et c'est un endroit où il fait bon vivre, c'est ce que vous expliquez, Blaise Hoffmann. Qu'est-ce qui vous a plu tout de suite à Omoa?
Bon, bah, ça reste, je pense que tu me contrediras pas, Antoine. L'hospitalité, c'est vraiment le dénominateur commun de toutes les îles de l'archipel des Marquises. Et puis après, moi, c'est le hasard des rencontres. Qui m'a fait découvrir à Omoa un certificat de Légion d'honneur décerné à un certain William Grelet. Sombre inconnu, mais ce nom me disait peut-être quelque chose. Ouais. Et puis je me suis aperçu que son ancêtre, enfin son père, qui s'appelait François Grelet, était en fait un Suisse qui avait émigré en 1892 et qui s'était retrouvé là-bas et qui n'est jamais rentré. C'est des histoires comme ouais, ça.
Vous faites toute la généalogie de la famille Grelet. Hein, d'ailleurs, dans les, c'est ça, les Suisses, les Bretons et les Corses, ils sont un peu partout finalement.
Ce qui est formidable dans le livre de Blaise, c'est que vraiment il est allé en profondeur, il est allé lire dans les bibliothèques, il est allé chercher des récits et il cite beaucoup de textes, des lettres, des correspondances de gens qui ont un peu à la même époque que Gauguin, qui se sont installés là et c'était vraiment une grande aventure.
Ouais, c'est génial parce que vous me faites la transition puisqu'on va parler de Gauguin, mais avant de parler de Gauguin, on va parler du Gauguin parce qu'il y a aussi le Gauguin et le Gauguin précisément, Blaise Hoffmann, bah, c'est celui qui bouleverse très régulièrement la vie de ce village de Moa.
Oui, alors ça, on parlait de Brel avant, ça me faisait rire parce qu'on se retrouve sur place et puis les jeunes en fait n'apprécient pas Brel parce que on leur dicte toujours la chanson Les Marquises, les profs de la métropole expatriés aux Marquises leur dictent toujours cette chanson.
On va l'écouter dans un instant.
Et puis Gauguin que j'adore et dont j'apprécie vraiment l'œuvre, en me retrouvant à Omoa, eh bien je vois un monstre d'acier qui s'appelle le Paul Gauguin et qui est un paquebot de luxe avec club de cigares, discothèque, bar, avec une galerie où il y a trois croquis authentiques justifié de Paul Gauguin.
Du maître, oui.
Et des hôtesses que l'on appelle
des Gauguines.
Des Gauguines.
Des Gauguines. Ça, vous en connaissez des Gauguines?
J'en ai, oui, il y en a plusieurs. Elles ont un petit air Gauguin.
C'est un bon début pour une chanson.
Oui, ça pourrait faire une bonne chanson.
Est-ce que tu l'as vu passer, ce paquebot?
Ben, je suis allé dessus, d'ailleurs. Je les connais et tout. Bon, c'est une clientèle essentiellement américaine, des gens assez âgés. Mais ce qui est amusant, tu cites dans le livre, tu dis qu'en particulier, Gauguin qui est mort sans un sou.
C'est un peu la revanche de Gauguin.
Alors imaginez qu'il y aurait un bateau qui porterait son nom, qui arriverait dans ses mouillages. Mais ce que je peux dire aussi, c'est qu'à Tahiti, deux des banques principales sont rue Paul Gauguin. On leur siège rue Paul Gauguin. Donc sur les deux tiers des chèques qu'on émet en Polynésie, il y a le nom de Paul Gauguin. Lui qui n'avait pas un sou, il aurait...
Mais nouveau clin d'œil, parce que c'est vrai que vous racontez, vous nous rappelez finalement que Gauguin est quand même mort dans le dénuement le plus complet, dans même une certaine forme de mépris, et pour l'homme et pour l'œuvre, quoi.
Ah, tout à fait, ouais. Et puis avec la syphilis, avec il était morphinomane, alcoolique jusqu'aux extrémités de son foie, et puis complètement méprisé par l'administration coloniale, vu que lui se battait, luttait pour les droits des autochtones.
Oui, et aujourd'hui, sa maison, qui s'appelle la maison du Jouir, c'est ça, est particulièrement prisée des touristes. Hein. Donc,
elle a été reconstruite, soi-disant, mais je pense, oui, elle a été reconstruite à l'identique. Voilà. Elle s'est devenue un musée. Il y a très peu de visiteurs, mais on peut y aller. Ce qui est le plus drôle, c'est le puits qui vient d'être découvert, lui, il y a quelques années, qui est à côté de la maison. Et donc, au fond de ce puits, on a retrouvé les petites fioles de morphine du peintre. Et puis, on les conserve comme des reliques. Et j'aime bien ces collisions historiques, de savoir le mépris que l'on avait pour ce personnage en 1901-1903, lorsqu'il était aux Marquises et qu'il a peint ses 50 toiles qui feraient de lui un millionnaire aujourd'hui, avec aujourd'hui. Je crois que j'aime autant voyager dans le temps que dans l'espace.
Blaise cite parmi les nombreux livres que Blaise cite, il y a un livre d'un ami à moi qui est venu aller aux Marquises spécialement pour étudier vraiment les dernières années de Jacques Brel, et c'est Fred et Mauricette Hidalgo, qui ont fait un voyage extraordinaire, et ils m'avaient demandé avant leur voyage des noms, de les mettre en contact avec le pilote que tu as peut-être rencontré, le pilote qui avait volé avec Brel en permanence là-bas. Et puis c'est un livre très intéressant aussi, quoi. Ça s'appelle L'aventure commence à l'aurore. Voilà,
on va le noter, ouais. Et on va écouter.
C'est très récent, ouais.
Ils parlent de la mort comme tu parles d'un fruit. Ils regardent la mer comme tu regardes un puits. Les femmes sont lascives au soleil redouté. Et s'il n'y a pas d'hiver, cela n'est pas l'été. La pluie est traversière, elle bat de grain en grain quelques vieux chevaux blancs qui fredonnent Gauguin. Et par manque de brise, le temps s'immobilise aux Marquises. Du soir montent des feux et des points de silence qui vont s'élargissant et la lune s'avance. Et la mer se déchire, infiniment brisée par des rochers qui prirent des prénoms affolés. Et puis, plus loin, des chiens, des chants de repentance, et quelques pas de deux, et quelques pas de danse. Et la nuit est soumise, et l'Alysée se brise aux Marquises.
Les Marquises, Jacques Brel dans VMDN avec Antoine et Blaise Hoffmann. Alors dans le livre, Blaise Hoffmann, on découvre aussi, Antoine le rappelait, le passé des Marquisiens. On découvre aussi le présent de l'archipel. L'un de vos interlocuteurs dit « Les Marquises se doivent d'être autre chose qu'un cimetière d'étrangers célèbres ». Est-ce que c'est une phrase que vous reprenez à votre compte ?
Complètement, ouais. C'est une phrase qu'avait prononcée Lucien Akimete, qui est décédé dans un accident d'avion il y a quelques années. Peut-être tu l'as rencontré, j'imagine, qui vivait sur l'île de Nuku'iwa. Oui, complètement, complètement.
Oui, parce que quand vous allez au jeu, au festival plutôt des arts marquisiens, c'est un peu comme ça d'ailleurs que le livre s'ouvre. Après, vous écrivez un petit commentaire, un petit article. Ça vous vaut une petite leçon d'humilité, quoi. Et c'est d'ailleurs comme ça que vous commencez.
Tout à fait.
Racontez-nous. Ouais, alors, ouais, racontez-nous. Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce qu'en fait, c'est intéressant parce que c'est le regard de l'occidental, un peu acculturé finalement avec tous les clichés qui découvre la vraie vie, quoi.
Tout à fait, ouais. Oh, c'est un dépucelage identitaire, on pourrait l'appeler comme ça. On me retrouvait dans un festival qui a lieu tous les deux ans dans l'archipel, qui réunit 400 danseurs, percussions, quelque chose de magnifique, une expérience qui dure 3 jours, danse, chant, artisanat. Et j'ai eu l'envie de le raconter dans un blog. Et c'est vrai qu'ils sont, les Marquisiens sont maintenant assez réticents envers tous les étrangers, quel que soit leur message. Du reste, ça je l'ai compris après, qui écrivent sur ces Marquises.
Ouais, vous avez constaté ça aussi, Antoine, de la méfiance.
Je sais pas. Je dois dire une chose, c'est que moi, en voyage, je rencontre beaucoup moins les gens que Blaise ne l'a fait. Blaise, il est allé chez les gens, vous rencontrez les gens énormément. J'ai rencontré beaucoup de Marquisiens, mais je n'ai, à vrai dire, bien que je vive depuis très longtemps en Polynésie, je vais pas très souvent en Marquise, et je saurais pas dire j'ai pas ressenti, moi, cette chose-là. J'ai eu que des accueils formidables, ce que tu décris, tu vois, des accueils d'hospitalité extraordinaires.
Ah oui, c'est vraiment un trait de caractère. Ouais.
Et puis, dans ton livre, tu dis que quelqu'un, un étranger qui vient, puis après, il va parler de travers de nous et tout.
Oui.
Et j'ai essayé de jamais parler de travers, quoi.
Mais on a un peu l'impression. Par contre, moi, j'ai vraiment l'envie d'être honnête avec ce vécu et de pas omettre. Alors, on parlait de Moa avant. Il faut savoir que là-bas, je suis allé chasser le cochon sauvage.
Oui.
Mais avec un jeune qui avait une GoPro sur la tête et qui filmait sa chasse, qu'il a posté sur Facebook et en faisant un montage avec un générique. C'est quelque chose que j'ai vu.
Oui.
Donc moi, j'ai envie de le raconter et je crois pas que ça touche là l'honneur ou bien.
Oui, mais on a quand même l'impression, Blaise Hoffmann, alors vous allez peut-être me démentir, mais que les Marquisiens sont en fait coincés entre les clichés finalement qui les font vivre, parce que ça, c'est ça aussi qui amène le touriste et c'est ça qui fait tourner l'économie du pays, et puis une volonté d'authenticité qu'ils ont finalement beaucoup de mal à imposer.
Bon, il faut déjà rappeler l'histoire, hein. C'est vraiment une culture, enfin, c'est carrément un peuple qui a failli disparaître. Ils étaient plus que 2000 dans les années 20, ils sont pas 10 000 maintenant, mais ils sont 9 000 dans l'archipel. Et puis la culture est évidemment pas leur besoin principal.
Oui, c'est pas leur priorité.
Ouais. Dans ces années-là, donc la culture s'est complètement perdue et en une génération, ils ont tout recréé. Donc évidemment qu'ils peuvent prendre mal le fait qu'un jeune voyageur européen dise ce qui se passe avec ce mélange que moi je trouve assez heureux entre la modernité, la mondialisation et puis une culture ancestrale.
Alors parmi les éléments évidemment incontournables de la culture marquisienne, il y a le haka. On vous voit d'ailleurs, Antoine, en train d'essayer le haka. Vous en avez gardé un bon souvenir.
Oui, bien sûr.
Vous vous êtes montré à la hauteur. Oui,
c'était dans la vallée de haka, oui, là-bas, voilà, où il y a eu avec la grande chute d'eau et tout ça, un des plus beaux mouillages pour un bateau de Polynésie.
Il y a le tatouage aussi, et puis il y a le fafarou. Alors c'est quoi le fafarou?
Parce que tu l'as
ça, visiblement, c'est
fafarou, ça m'excite pas beaucoup. C'est le fafarou.
Oui, c'est un souvenir un peu douloureux, Blaise Hoffmann. C'est quoi le fafarou? Expliquez-nous. C'est un peu le plat national marquisien, c'est ça?
C'est un condiment en quelque sorte, quoi.
On prend des crevettes d'eau douce, on les laisse macérer quelques jours et dans un liquide, dans de l'eau, et puis après on trempe du thon dedans
voilà.
Et le résultat, c'est le fafarou avec une odeur qui va avec la recette.
Un peu comme le fromage en Corse, quoi, le fromage qui faisait peur à Astérix.
Il est bon, le fromage corse.
Oui, mais des fois il y en a quelques-uns qui sentent un peu fort, ou comme même le certain fromage, quoi. Donc le fafarou, c'est quand même un condiment, mais il y a des très bonnes choses moins goûteuses que ça peut-être, mais délicieuses quand même. On peut le dire.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Alors, quand on a envie d'aller au bout du monde, on n'a pas forcément la possibilité, comme vous, Antoine, de grimper sur un voilier. On n'a pas forcément la possibilité non plus de se payer un billet d'avion comme vous, Blaise Hoffman, pour partir aux Antipodes. On peut aussi rêver et découvrir des cultures en se rendant au musée, par exemple au musée du Quai Branly, qui nous fait découvrir jusqu'au 1er février la sculpture des îles Salomon, une exposition que Maïsa Costache a visitée pour nous.
Au début de l'exposition, des images filmées nous amènent dans cet archipel de l'océan Pacifique du Sud. On y voit des pirogues qui volent presque sur l'eau. La mer et ses trésors font partie intégrante de la culture des habitants des îles Salomon. Poissons, dauphins, requins ou raies, oiseaux marins comme la frégate vont investir l'imaginaire des artisans qui vont leur conférer des pouvoirs surnaturels dans les cérémonies des esprits des eaux et des morts et vont en faire des objets de culte ou usuels. Comme cette pagaie du 19e siècle de l'île Santa Isabelle que nous présente Magali Mélandry, commissaire de l'exposition.
La pale est peinte des deux côtés et présente dans la partie inférieure un personnage de profil à une jambe qui est identifié dans la littérature comme étant l'esprit Kesoko, qui est cet esprit perturbateur en fait que les hommes redoutent et qui va être capable de faire chavirer justement les pirogues dont on se prémunit à l'avance en posant sur les pirogues un certain nombre de signes iconographiques qui vont l'empêcher d'agir. Elle montre aussi l'état un petit peu spécifique de ces entités surnaturelles qui peuvent parfois prendre un corps d'homme et une tête d'oiseau, ou ici une tête d'oiseau et un corps de poisson.
Jeu de contraste entre l'aspect brillant et l'aspect sombre, sobriété des parures corporelles des femmes et des hommes, comme ces boucles d'oreilles de l'île de Malaita, en bambou, dents de dauphin et fibres végétales, orchidées et cocotiers, qui sont d'un raffinement extrême et d'une rare beauté. Et dans tout l'archipel, on retrouve les mêmes choix de couleurs, le noir, le blanc et le rouge. Voici devant une magnifique monnaie de plumes de l'île Santa Cruz. Sur l'île de Nendo, la méthode de fabrication des monnaies de plumes était le savoir-faire de quelques familles. Il se transmettait de père en fils. L'ethnologue Sandra Revolon a fait des recherches dans ces îles.
C'est un objet assez extraordinaire, unique en son genre. Donc de plumes, de passereaux, des petites plumes rouges, hein, qui sont, donc c'est leur couleur naturelle, qui sont enduites sur des plaquettes qui sont elles-mêmes ensuite savamment encollées sur des fibres végétales pour donner des rouleaux assez longs qui servaient au paiement du prix de la fiancée, par exemple. C'est un peu triste, l'histoire de cet objet, puisque autant les monnaies de coquillages sont encore produites et utilisées dans l'archipel, autant ces monnaies de plumes, là, de Santa Cruz, sont en train de disparaître avec les derniers experts qui sont en train de mourir.
Les crépuscules incandescents et les nuits magiques des îles Salomon vont inciter leurs habitants à imiter la nature pour reproduire le monde. Bâtons de danse à l'effigie du Kalao, ce grand oiseau noir, figure de proue en bois teinté, ou reliquaire à crâne qui permettait aux vivants de maintenir les relations avec les morts, autant de vestiges nous portent tout au long de l'exposition dans le monde secret et magique de l'éclat des ombres.
Reportage de Maïsa Costache pour VMDN. Antoine, vous ne connaissiez pas les îles Salomon, vous les connaissez toujours pas d'ailleurs?
Non, je connais à gauche la Louisiade, c'est-à-dire l'est de la Nouvelle-Guinée, quoi. Ouais. Et je connais à droite le Vanuatu.
Alors c'est incroyable. Au-dessus, ça. La Nouvelle-Guinée. On est tombé pile sur les îles que vous connaissez pas.
Les Salomon,
quoi.
J'y suis jamais allé.
Donc, mais pourquoi?
Elles ont un passé assez difficile. Vous savez que vers 1938, par là, il y avait un Américain qui avait décidé de choisir de vivre. Il en avait marre des risques de guerre qui couraient et tout. Il a choisi de vivre dans un endroit le plus isolé où il serait loin de toute guerre et tout. Il a choisi une île. Au bout du monde, il a chassé sur le calendrier. Il a choisi une île qui s'appelait Guadalcanal. Voilà. Et il s'est retrouvé en plein milieu de la guerre, totalement, quoi. C'était. Oui. Donc, c'est un archipel qui a quand même un passé assez sanglant, quoi. C'est
oui.
Difficile.
Oui, ça veut dire que vous êtes superstitieux, Antoine? Vous voulez pas mettre les
non,
pieds n'importe où?
Non, pas superstitieux, mais il y a d'autres archipels qui me tentent plus, qui sont plus doux, quoi. Plus oui. Doux que celui-là.
Alors là, quand est-ce que vous repartez?
Eh bien là, je suis en tournée avec Connaissance du Monde, tournée de conférences sur les îles de l'océan Indien. Donc la Réunion, je sais que vous êtes de la Réunion.
Absolument, voilà. On salue les Réunionnais, merci de le préciser.
Salut les Réunionnais, il y a l'île Maurice, il y a les Seychelles aussi. En tournée de conférences jusqu'en février. Et puis ensuite, un petit peu de tournage en Asie du Sud-Est. Et puis on rejoint le bateau qui est en Australie. Voilà, en Australie pour naviguer en Australie et en Nouvelle-Zélande.
Et vous, Blaise Hoffmann, vous êtes un grand voyageur ou bien là, le séjour aux Marquises, c'était vraiment une expérience unique?
Non, je suis un passant, mais j'ai passé pas mal d'années en route, ouais.
Oui. Par exemple, vous avez aussi d'autres envies de voyage. Là, en parcourant le livre d'Antoine, il y a peut-être une destination qui vous a un petit peu tapé dans l'œil, non?
Je vis depuis 35 ans sur une île.
En Suisse?
On l'appelle la Suisse, ouais, c'est la
même. Ah, c'est une île, oui, absolument. Mais elle n'est pas dans l'album, la Suisse, d'Antoine.
Elle pourrait, y être.
Non, j'ai adoré l'île sur laquelle t'es né.
Corse.
Madagascar.
Oui. Mon père est en Corse, mais moi à Madagascar, oui, c'est fabuleux. Tu as voyagé à Madagascar, oui. Ah oui, c'est merveilleux aussi.
Oui. Est-ce que, comme Blaise Hoffmann, vous, Antoine, vous tenez un carnet de voyage comme ça quand vous écrivez ou
non? J'ai écrit des milliers de pages quand j'ai commencé, puis ensuite je me suis vraiment tourné vers l'image, quoi, la photo et la caméra, quoi, et la vidéo. Et c'est
mais là, n'empêche pas l'autre.
Manière d'écrire. Non, mais c'est difficile de faire trois choses à la fois, quoi. Et là, la photo, la vidéo, c'est déjà beaucoup, et difficile d'écrire en plus des livres textes.
Oui. Alors écrire des chansons, c'est peut-être plus simple. Alors c'est quand la prochaine chanson d'Antoine?
Bah écoutez, peut-être qu'on écoute RFI en Italie, il est question que j'aille retourne au festival de Sanremo,
oui.
où j'ai chanté de nombreuses chansons dans les années 70, que j'y retourne au mois de février. Mais sinon, il y aura bien quelques chansons par-ci par-là, mais surtout les images.
Eh bien, merci beaucoup à tous les deux, Antoine, 40 escales, 40 ans de navigation, édité chez Gallimard, et donc l'année prochaine, 50 ans d'élucubration, chez le même éditeur. Merci beaucoup, Blaise Hoffmann.
Merci à vous.
Votre livre Marquise est paru en Suisse aux éditions Zoé. Demain, tout à fait autre chose, Akhenaton sera avec nous pour nous présenter son nouvel album Je suis en vie chez Def Jam, et vous m'en direz des nouvelles. Oh yeah.